Radio Prague, les informations. Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Prague. Le gouvernement a adopté la position que devra défendre le président Klaus au sommet européen extraordinaire sur la Libye et l'Afrique du Nord. Le montant du salaire moyen en République tchèque s'est élevé à 977 euros en 2010. Et puis enfin en athlétisme, Usain Bolt courra de nouveau au meeting d'Ostrava en mai prochain. Comme annoncé en titre, le gouvernement a donc approuvé mercredi le mandat avec lequel le président de la République, Václav Klaus, participera au sommet européen extraordinaire sur la Libye et l'Afrique du Nord qui se tiendra à Bruxelles vendredi. Cette réunion aura pour objectif de formuler une réponse humanitaire et politique à la situation actuelle en Afrique du Nord et plus particulièrement en Libye où la révolte contre Muammar Kadhafi bat son plein. Ces derniers jours, le chef de l'État tchèque a fait savoir qu'il était opposé à une éventuelle intervention militaire en Libye. D'un avis similaire, le ministre des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg et l'ensemble du gouvernement tchèque sont partisans d'une position prudente sur la question et refuse pour l'instant également toute intervention contre le régime de Muammar Kadhafi. Dès la fin février, Prague avait réclamé l'interruption immédiate des répressions contre les manifestants et l'ouverture d'un dialogue politique. Parallèlement, la République tchèque avait soutenu les sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Libye. Économie, le taux d'inflation en République tchèque s'est élevé à 1,8% en février contre 1,7% en janvier, légèrement inférieur aux prédictions faites à l'origine par les analystes économiques et la Banque nationale. Ces chiffres ont été communiqués mercredi par l'Office des statistiques. Par rapport à février 2010, ce sont notamment les prix des produits alimentaires qui ont augmenté ainsi que ceux du logement. Le montant du salaire brut mensuel moyen en 2010 en République tchèque s'est élevé à près de 24 000 couronnes, soit près de 980 euros, soit une augmentation de 2% par rapport à 2009. En tenant compte du taux d'inflation, la croissance nominale n'a toutefois été que de l'ordre de 0,5% en l'espace d'un an. Il s'agit donc de la croissance la plus faible de ces 10 dernières années, selon les données de l'Office tchèque des statistiques. Selon les analystes, environ 2/3 des employés perçoivent un salaire inférieur à la moyenne statistique. Logiquement, le montant des salaires est le plus élevé à Prague avec 1215 euros. À l'opposé, il est le plus faible dans la région de Karlovy Vary en Bohême de l'Ouest avec 825 euros. Chiffre toujours, le bilan du commerce extérieur de la République tchèque en janvier affiche un solde positif de 15,7 milliards de couronnes, soit 640 millions d'euros, et un résultat supérieur de 400 millions de couronnes à celui enregistré en 2010. Les chiffres ont été publiés mercredi. Comme dans le courant de l'année dernière, la relance de l'activité économique dans le monde est à la base de cet excédent de la balance commerciale tchèque. Ces exportations tchèques dépendent en grande partie de l'état de l'économie de la zone euro et plus particulièrement de l'Allemagne voisine. L'état de santé de Václav Havel est stabilisé, ont annoncé ce mercredi les médecins de l'hôpital militaire de Prague. L'ancien président a été hospitalisé mardi en raison d'une inflammation des voies respiratoires. Václav Havel devrait y rester plusieurs jours et devrait être rétabli pour la sortie en salle de son premier film, programmé le 24 mars. Václav Havel, qui fêtera ses 75 ans en octobre prochain, est régulièrement victime d'ennuis de santé et notamment respiratoires plus ou moins graves. Son long séjour dans les prisons communistes dans les années 1980 et son intensif tabagisme de longue date sont les principales raisons de ses ennuis qui l'ont conduit à l'hôpital de maintes reprises. Rappelons qu'en 1996, Václav Havel avait été opéré d'un cancer du poumon et une importante partie de son poumon droit lui avait été retirée. On passe au sport et à l'athlétisme. Pour la 5e fois depuis 2006 et pour la 4e année consécutive, Usain Bolt participera au meeting d'Ostrava en Moravie du Nord le 31 mai prochain. Le phénoménal sprinter jamaïcain, recordman du monde des 100 et 200 mètres, sera la grande attraction de la réunion qui fête cette année son 50e anniversaire. Les organisateurs ont confirmé sa présence ce mercredi à Prague. La distance sur laquelle s'alignera Bolt reste cependant encore une inconnue. La saison dernière, il avait pris part à un 300 mètres. Distance non officielle. Cette fois, la distance reine du 100 mètres ou un 200 mètres sont également évoquées. On termine avec un mot de météo après une journée de mercredi ensoleillée. Le retour des nuages est prévu pour ce jeudi, jour de la fête des Victoriers. Quelques averses sont attendues essentiellement dans le sud de la Moravie. Les températures sont en légère baisse et varient entre 7 et 10 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore en notre compagnie. Tout de suite, retrouvez Alexis Rosenzweig pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci à Guillaume Narguet pour les infos. Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague. Et dans la première partie de notre émission, nous reviendrons sur la problématique des visas canadiens pour les citoyens tchèques, un sujet discuté cette semaine au Parlement européen. Et puis nous parlerons économie et surtout réforme. Vous entendrez dans un instant le sénateur français de passage à Prague, Monsieur Marini, qui était donc dans la capitale tchèque pour parler surtout de budget de l'État. Et puis un nouveau chapitre de l'histoire dans la deuxième partie du programme avec l'interview d'un journaliste de Radio Free Europe, la radio américaine qui fête cette année ses 60 ans. Lors de l'ouverture de la session plénière de cette semaine à Strasbourg, le président du Parlement européen, Jerzy Buzek, a fait part du soutien du Parlement aux citoyens tchèques qui doivent désormais, vous le savez, disposer d'un visa pour entrer au Canada. Une déclaration écrite sur le sujet a désormais recueilli le nombre requis de signatures de députés et constitue par conséquent une position officielle du Parlement européen. Plus d'informations tout de suite, c'est avec Václav Richter.
Le Canada a trois fois supprimé puis rétabli l'obligation de visa pour les ressortissants tchèques en réaction à un important afflux d'immigrants roms de Tchéquie. Ces mesures ont toujours provoqué des initiatives des dirigeants tchèques pour faire revenir l'administration canadienne sur sa décision. Ils ont demandé à plusieurs reprises une aide de la Commission européenne, mais cette dernière n'a fait qu'adresser au Canada des exhortations verbales sans les appuyer de mesures efficaces. La pétition lancée par l'eurodéputée tchèque Zuzana Rojtová du Parti chrétien-démocrate KDU-CSL pourrait obliger la Commission européenne et le Canada à se pencher de nouveau sur ce problème. Zuzana Rojtová se montre optimiste.
Cette pétition pourrait créer une pression que la Commission européenne sera obligée de prendre un peu plus au sérieux. En tout cas, c'est une honte pour la Commission parce que la majorité des eurodéputés ont signé le constat que la Commission européenne ne travaille pas dans cette affaire comme elle le devrait.
Dans la pétition, le Parlement européen souligne que si cette question de visa n'est pas réglée dans un court délai, le Canada se doit préparer à des mesures de rétorsion de la part de l'Union européenne. La nature de ces mesures reste à définir, mais on évoque dans ce contexte l'obligation de visa pour les diplomates canadiens dans les pays de l'Union ou bien la suppression de l'accord commercial entre l'Union et le Canada. L'eurodéputé tchèque Jan Zahradil du Parti civique démocrate, ODS, espère que cette fois-ci la pétition aura des retombées réelles parce que le traité de Lisbonne a renforcé le rôle du Parlement européen.
Si la Commission européenne adopte vraiment ce thème et exerce une pression sur le Canada, je pense que nous avons une chance de réussir. Je pense que c'est une honte que la République tchèque soit l'unique pays de l'Union européenne qui, pour des raisons sans importance réelle, est frappé par l'obligation de visa canadien, tandis que tous les autres États membres en sont exempts.
Jan Zahradil oublie cependant que la Roumanie et la Bulgarie demandent, elles aussi, la suppression de visas canadiens. Leur situation diffère cependant de celle de la Tchéquie parce que l'administration canadienne n'a encore jamais supprimé l'obligation de visa pour ces deux pays, qui par ailleurs ne font pas partie de l'espace Schengen. Bien que la pétition ait été signée par la majorité des membres du Parlement européen, elle n'a pas fait l'unanimité des eurodéputés tchèques. Libor Rouček et Richard Falbr du Parti social-démocrate, CSSD, ont refusé de la signé. Richard Falbr explique cette réticence.
J'ai refusé de signer cette pétition parce que je la trouve très hypocrite. Nous demandons la solidarité des autres États de l'Union, mais nous n'avons pas été solidaires nous-mêmes, au moins à deux reprises, quand nous avons cherché à négocier indépendamment la suppression de visa avec les États-Unis et puis lorsque nous avons œuvré pour l'installation d'une station radar américaine sur notre territoire.
Quoi qu'il en soit, la Commission européenne ne pourra pas ignorer cette initiative et Prague attend maintenant sa réaction officielle.
Le sénateur français Philippe Marini, rapporteur général de la Commission du budget au Sénat, était à Prague lundi et mardi. Au cours de cette visite, il s'est notamment entretenu avec le ministre tchèque des Finances, Miroslav Kalousek, et Anna Kubišta lui a demandé de détailler l'objet de leur discussion.
On a parlé de méthodes, en particulier sur les niches fiscales, la réduction des niches fiscales. La République tchèque a une fiscalité complexe, la France aussi, et dans l'effort de convergence budgétaire, c'est-à-dire de retour vers les 3% et vers l'équilibre un peu plus tard, la lutte contre les niches fiscales est un élément absolument essentiel. Et j'ai été très heureux d'entendre M. Kalousek sur ce sujet dire il faut définir des priorités, par exemple famille, par exemple productivité et recherche, donc définir l'essentiel de ce que l'on doit garder dans la politique d'incitation fiscale, et tout le reste, il faut le supprimer. Et j'avoue que je m'y retrouve très bien dans cette approche, alors qu'en France, on a, à mon avis, un peu trop tendance à compliquer ces questions.
Dans le cadre, en fait, des efforts mis en place pour financer, en fait, le déficit des retraites, la République tchèque veut imposer ce taux de TVA unique à 20%, mais ce taux de TVA unique fait débat parce que, par exemple, elle pourrait toucher notamment les livres. Vous ne pensez pas que, justement, ce taux de TVA unique à 20% peut, au contraire, ralentir l'économie, puisque les gens, finalement, n'achèteront plus ou moins?
Déjà, j'observe que le taux réduit est ici à 10%, alors qu'en France, il est à 5,5%. Ça fait quand même une sacrée différence. D'autre part, je suppose que le Parlement tchèque, la majorité, trouvera un bon équilibre. Hein, comme toujours, on peut partir de positions assez extrêmes pour arriver à des compromis raisonnables. Je rappelle que nous avons eu, pour ce qui nous concerne, une discussion sur le taux de TVA pour les livres, mais pour les livres immatériels, nous avons eu cette discussion dans la loi de finances pour 2011, et je le rappelle, pour aligner ces taux sur le niveau le plus bas, c'est-à-dire 5,5%. Alors, comparaison avec la situation tchèque montre que nous avons de la distance à parcourir et que dans notre pays, on a probablement fait un peu trop de cadeaux fiscaux.
Les dirigeants de la zone euro doivent se retrouver donc le 11 mars pour discuter justement de mesures à prendre sur la gouvernance économique. Alors il sera notamment question du plan de compétitivité franco-allemand, et certains pays, notamment la République tchèque, les plus petits pays, ne voient pas forcément d'un très bon œil ce plan de compétitivité. Alors que pensez, est-ce que vous avez parlé de cela justement à cette occasion, à l'occasion de votre de vos discussions avec monsieur Kalousek?
Oui, j'ai trouvé paradoxalement que la position tchèque était plus ouverte que je ne l'aurais pensé. En ce qui concerne la gouvernance, j'ai eu le sentiment que nos arguments étaient bien compris. Je pense qu'au Conseil européen, nous ne devrions pas être sur des positions antagonistes. J'ai eu l'occasion, avec différents experts tchèques, d'évoquer les progrès de la construction européenne. Je m'attendais à des propos finalement beaucoup plus eurosceptiques que ce que j'ai entendu, en particulier sur la zone euro. Et je crois qu'il est clair aux yeux de beaucoup d'experts et de personnes concernées ici à Prague que ce pays est appelé à rejoindre la zone euro quelque part dans les années 2010. Il faut se défier des caricatures. Alors il y a probablement une caricature du français type qui circule à Prague, et puis peut-être aussi une caricature du tchèque eurosceptique, voire plutôt euro-hostile, qui figure à l'ouest, et tout cela me semble devoir être combattu.
C'était le sénateur français Philippe Marini au micro d'Anna Kubishta. Et dans la suite de ce programme en français, un nouveau chapitre de l'histoire avec David Alon qui est allé interviewer le journaliste tchèque Pavel Pechacek. Pavel Pechacek est à sa manière un vétéran de la lutte contre le régime communiste. En 1968, il entre à Munich au service tchécoslovaque de Radio Free Europe, la célèbre radio américaine. Il en assume la direction en 1989 après celle de Voice of America, et il lève dans cette interview notamment le voile sur l'affaire Martin Schmidt.
« chapitre de l'histoire.
En 1965, vous entrez à la radio tchécoslovaque comme journaliste. La libération du régime est à l'ordre du jour et une grande émulation intellectuelle et artistique traverse le pays. Est-ce que vous vous rappelez alors l'atmosphère à Prague ?
Zajímavé je, že když se děje nějaký odpor.
Il est intéressant de remarquer que l'opposition au régime en Pologne est venue du monde ouvrier, alors qu'en Tchécoslovaquie ou en Bohême, elle émanait des intellectuels. Ici, il s'agissait surtout de jeunes gens qui essayaient de s'accorder à cette culture des années 60. Il y avait la musique, le jazz, c'était déjà le cas dans les années 1950, la pop, le rock, et puis sont venus même, peu nombreux, les cafés littéraires, la poésie. Et petit à petit, durant les années 1960, les gens ont essayé de briser le joug de l'art officiel réaliste et socialiste.
Já ti řeknu něco velmi zajímavého, a to málo kdo ví. V Československu.
Je vais vous dire quelque chose que peu de gens savent. En Tchécoslovaquie, durant la seconde moitié des années 60, cette musique se développe fortement. Le régime n'a pas pu l'empêcher, mais a su l'utiliser à son profit. Radio Free Europe diffusait dans les années 50 et 60 des après-midi musicales très prisées par la jeunesse. Le succès de ces émissions a poussé le régime à proposer à la radio tchécoslovaque une émission, Microforum, reprenant le même créneau. Le but était de couler l'audimat de Radio Free Europe très important.
Aby se otupila ta vyšší poslechovost Rádia Svobodná Evropa.
Le 21 août 1968, les chars du pacte de Varsovie mettent fin au printemps de Prague. C'est le temps de la normalisation, vous émigrez en Allemagne de l'Ouest, et à Munich, vous commencez à travailler pour Radio Liberté, Radio Free Europe. Quel programme était diffusé en Tchécoslovaquie ?
Potom Radio Svobodná Evropa, to už jsem v ní byl, já jsem tam odešel na konci roku.
Quand je suis entré à Radio Free Europe fin 1968, la radio diffusait beaucoup de matchs de football et de hockey. Je me rappelle encore, Václav Havel et moi, c'était encore sous le communisme, suggérait que dans les programmes de la Voix de l'Amérique, j'avais beaucoup de sport et qu'il était peut-être dommage d'y consacrer tellement de temps. Et je lui ai dit, comment ça? Les gens écoutent ces émissions de sport avec beaucoup de plaisir. Ils veulent savoir ce que font les émigrés, Martina Navratilova, comment jouent nos hockeyeurs à l'Ouest. J'étais convaincu que par le sport, les gens restaient à l'écoute de la radio et donc qu'ils écoutaient aussi les nouvelles politiques. Pour cela, c'est moi qui ai eu raison et pas Václav Havel.
Takže v tomhle ohledu jsem měl pravdu já a ne Václav Havel.
Radio Liberté aurait joué un rôle important dans la révolution de velours en 1989. Elle annonce d'ailleurs la mort de l'étudiant Martin Schmidt, une information erronée qui mettra le feu aux poudres. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ?
Ten den po tom, co se dělo za masakr na národní třídě, dostal pracovní víza do Československa.
Après le jour du massacre sur la Národní, j'ai reçu le visa pour la Tchécoslovaquie et j'étais ainsi le seul journaliste de langue tchèque à couvrir les événements de la place Venceslas. Ce reportage appartient à la catégorie de ce qui a fait accélérer les événements, car tout le pays a pu apprendre ce qui se passait réellement et les gens prenaient conscience de leurs forces. C'était très important. Des étudiants slovaques ont même reconnu qu'il avait mis le feu en Slovaquie. L'histoire de l'étudiant Schmidt est intéressante. De fausses informations avaient été diffusées sur lui et Radio Free Europe a été le dernier à diffuser ces informations car j'étais très pointilleux sur la confirmation avant diffusion et je suis très sensible à ne pas faire d'intox. Mais ça s'est emballé et la nouvelle de la mort de l'étudiant assassiné par la police politique était déjà diffusée par tous les autres médias, La Voix d'Amérique, BBC, Reuters, etc. Nous avons donc finalement fait de même.
Prakticky všechny stanice. No tak jsem to taky nechal tuhle informaci vysílat. Tam zřejmě byly dvě, či možná i více skupin STB, které třeba...
Il y avait là-bas plusieurs groupes de la STB, police secrète tchécoslovaque, qui avaient des opinions différentes. L'un d'entre eux a fait courir le bruit de la mort de Schmidt. Pour les familles, la STB s'attaquait à des enfants et cela les a poussés après les étudiants à s'attaquer au régime. Quant à Schmidt, il a fait des études et a aujourd'hui un très bon groupe de jazz à Prague. Jusqu'à aujourd'hui, cette affaire n'a pas été complètement éclaircie, mais elle a sans doute dû être manigancée par la STB elle-même. L'étudiant qui a joué le rôle de Schmidt est un collaborateur de la STB. Je ne sais s'il s'agissait d'effrayer les gens ou, au contraire, de les pousser à s'engager dans l'opposition. Moi-même, je ne peux pas répondre avec assurance à cette question et j'en suis encore réduit à des spéculations. Je ne peux pas
précisément répondre et je me spéculations.
Radio Liberté devait sûrement représenter la bête noire du régime communiste. Est-ce que vous aviez peur pour votre vie ou est-ce qu'en plus généralement vous avez été l'objet d'espionnage?
Ah non, byly tam různé věci.
Oui, c'est passé différentes choses et pourtant je reste étonné qu'il y ait eu si peu d'attaques pendant les 10 ans où j'ai travaillé à Radio Free Europe, surtout depuis que j'ai appris après la révolution du velours toutes ces histoires d'espionnage sur notre station. Il s'est quand même passé quelques sérieuses affaires. Ainsi, on avait versé à la cafétéria de Radio Free Europe de l'atropine dans les salières, ce qui a provoqué une grande peur. Mais en février 1981, il y eut une grande explosion à la radio. Le bâtiment s'est fendu. Les secours ont sauvé 3 personnes du service tchécoslovaque. Une jeune fille, journaliste, qui portait son visage dans ses mains explosées. Les nombreuses opérations qu'elle a subies ne lui ont pas rendu son visage. C'était une attaque qui avait été probablement organisée depuis la Roumanie. Il a surtout atteint le service tchécoslovaque. Les habitants de Bavière étaient du côté de Radio Free Europe et n'ont pas demandé la fermeture de la station. Ils nous ont au contraire encouragés. Mais c'était une attaque particulièrement odieuse. J'ai moi-même eu de graves problèmes avec la STB. Celle-ci avait émis la possibilité de kidnapper mon fils, qui avait alors 5 ans, et ce n'est pas du tout une blague. Le plan supposé de l'amener à Vienne et de le garder jusqu'à ce que j'accepte de divulguer le nom de collaborateur de Radio Free Europe en Tchécoslovaquie. Cela, je ne l'ai appris qu'après 1989 par le ministère de l'Intérieur.
Byli tak dlouho, dokud neprozradím, kdo byl spolupracovník Svobodné Evropy.
En 1995, Pavel Pekáček participe à la création de la station Český rozhlas 6 qui assure la continuité de Radio Free Europe en République tchèque.
C'était un nouveau chapitre de l'histoire proposé par David Allon. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. Retrouvez-nous tous les jours sur notre site internet dont vous connaissez déjà l'adresse www.radio.cz, www.radio.cz/fr.